Normalement, je serai là tous les vendredis avec vous pour vous faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les architectes du son. I know I'm different. I do as I please. A spark inside that I can't hide. A mystery. A dream of the big screen. Malena up in the lights.
Je me souviens encore de ma première écoute du premier épisode de Série Noire. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu à la télévision québécoise jusqu'à maintenant. On découvrit Denis et Patrick qui, suite à l'insuccès de la première saison de leur série policière, se lancent dans une entreprise scénaristique sans précédent, les plongeant dans une suite d'aventures loufoques qui nous font découvrir une ribambelle de personnages fascinants, dont l'incomparable Marc Arcan. Je me suis instantanément réjoui devant cet imaginaire unique, cet humour à la fois fin et absurde, ce réalisme décalé. J'étais surtout happé par la signature artistique de chaque épisode, signature que j'ai redécouverte avec grand plaisir quelques années plus tard dans « C'est comme ça que je t'aime ». C'est très distinctif. On les repère déjà dans Les Invincibles, la série qui marque les débuts à la télévision de ce duo génial, François Letourneau et Jean-François Rivard.
Je pense beau, là.
Hey, come on, là. On est des scénaristes.
Ça va-tu, toi?
Oui, bonjour et bienvenue à l'émission La Planète des Sages. On est très content de vous revoir encore cette semaine. En fait, on avait pris une petite pause la semaine dernière, on avait fait relâche, mais aujourd'hui, on est en forme, on s'est reposé. Et je ne suis pas seul à être en forme, il y a également Émilie Bourseau-Gautier. Bonjour, Émilie. Oui, ça va très bien. Et toi, maintenant, tu peux dire une réponse que les gens vont entendre. Émilie, ça va bien?
Ouais!
Ouais! La phrase, on n'a rien entendu, ça va bien. N'a jamais
autant stand-up, François.
Ben oui, tout est voulu. Tout est voulu. Et d'ailleurs, la voix fantastique de Patrick Couture, ça va bien, Patrick?
Oui, super. Écoute, comment ne pas être heureux quand c'est un épisode de radio s'ouvre sur la fameuse réplique « On est des scénaristes!
» Cette fameuse réplique, justement, qu'on retrouve dans Série Noire, cette création du duo Les Tourneaux-Rivard. On est tellement content que tu nous parles d'eux aujourd'hui.
Ouais, mais encore une fois, cette semaine, c'est un épisode que je préparais depuis longtemps. En fait, depuis la saison passée, là, je l'avais comme mis dans une petite boîte. J'avais dit, je le ressors dans pas long parce que, bon, c'est sûr que la planète des sages, on cherche la sagesse. D'un fond, on s'intéresse à des gens comme Serge Bouchard ou Mathieu Ricard, des moines, des trucs comme ça. Là, on s'intéresse à des scénaristes, réalisateurs québécois qui font de la télévision, qui, de prime abord, peut-être paraître un peu niaiseuse au sens d'un univers un peu... du moins, les personnages dans les séries, on peut le dire, sont parfois épais.
Clairement.
Souvent. moi, c'était pour dégager parce que c'est des séries que j'ai super appréciées, les trois. Je sais pas si... en fait, je sais, mais je fais semblant parce qu'on est à la radio, si vous êtes familier avec ces séries-là.
Je vais t'informer. Tu le sais pas, entre guillemets radiophonique, mais oui, moi j'ai écouté Les Invincibles, j'ai écouté Série Noire, c'est comme ça que je t'aime. Donc, je pense les trois grands, trois seuls peut-être projets de ce duo-là. Ah, tu sais, ils en ont fait séparément, mais en duo, je pense que c'est les trois seuls.
Ouais, exactement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, François Letourneau est comédien et il est aussi comédien de théâtre, il est aussi écrivain au théâtre et scénariste. Et Jean-François Rivard est scénariste et réalisateur. Donc, dans chacune de ces séries-là, en fait, les séries sont écrites en duo. Donc, les deux ensemble. Et Jean-François Rivard se charge de la réalisation. Et François Letourneau a toujours un personnage central dans la série. Excepté C'est comme ça que je t'aime, qui a été écrite uniquement par François Letourneau. Donc Jean-François Rivard n'a pas participé à la scénarisation.
Milie, toi de ton côté, est-ce que tu avais écouté ces séries-là?
Oui, effectivement. J'ai écouté Série Noire et C'est comme ça que je t'aime à plusieurs reprises même. Donc on pourrait dire que j'ai quand même été assez fan. C'est des séries qui ont une certaine absurdité dans leur humour et dans leur scénario. Puis c'est quelque chose que j'ai qui m'a vraiment plu en fait. Donc une grande fan.
Et moi, je dois avouer de prime abord que je suis pas de ces personnes qui raffolent des séries télévisuelles, donc qui en écoutent là, énormément. J'ai quelques séries qui me permettent de vraiment décrocher, là, des sitcoms américains, entre autres.
T'as écouté How I Met Your Mother, genre 14 fois.
Ouais, bon, c'est ça, fallait le dire. mais je suis pas là, les Breaking Bad, Lost, je sais pas, nommez-en. Là.
Gossip Girl.
Mindhunter, ouais. Game of Thrones.
Ouais, c'est ça, tous ces séries-là, moi, j'ai jamais vu ça, j'ai pas tant embarqué. Et pour qu'une série, je suis plus fan de cinéma, donc pour qu'une série me saisisse comme ces séries-là, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose. Puis c'est ce que je veux creuser aujourd'hui, c'est un peu de savoir, bon, je pense que les trois ici, on s'entend pour dire que c'est bon, qu'il y a une qualité certaine à tout ce que ces gars-là ont fait ensemble. Après, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il y a de plus et qu'est-ce qui fait que c'est bon? C'est un peu la recherche que je vous propose de faire aujourd'hui dans la belle heure de radio qu'on a ensemble.
Ben, ça me va comme proposition. J'accepte.
Parfait. Ben, là, on commence toujours avec une biographie. Là, on a deux personnes aujourd'hui, donc on fera pas nécessairement une biographie de.
Ça aurait été bien d'adon que ce soit des jumeaux. Hein? Ça aurait été plus rapide.
Oui, mais d'ailleurs, je vais sûrement refaire la comparaison. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de similaire aux frères Coen, ce célèbre duo de réalisateurs scénaristes américains qui travaillent un peu comme les Tourneaux River et qu'eux, bon, ce sont des frères. Mais donc, on peut déjà donner quelques éléments pour chacune des personnes. Donc, François Letourneau, qu'on le connaît peut-être un peu plus, car il est devant la caméra. Au Québec, on s'intéresse, je pense, beaucoup, en fait, partout dans le star system, les comédiens, les acteurs, c'est eux qu'on voit plus souvent, dont on connaît les noms, souvent plus que les réalisateurs, par exemple. En tout cas, du moins, c'est une généralité.
Mais loin des yeux, loin du cœur, ça s'applique aussi au monde télévisuel.
Oui, c'est ça, parce que les réalisateurs sont cachés derrière la caméra, d'autant plus les scénaristes, c'est rare qu'on les connaît. Enfin, donc, François Letourneau prend plus la parole, donc on a plus d'éléments biographique sur lui. C'est, par exemple, on sait qu'il est né en 74 dans Sainte-Foy. Aussi, on sait qu'il a étudié les sciences au départ et, au cégep et ensuite la science politique à l'Université Laval. Et il s'est qualifié lui-même, je l'ai entendu quelques fois le dire, là, de bon élève ou même de bol. Là, vraiment un nerd, ce qu'il va dire de temps en temps.
Il a un peu le look aussi. Il le dit lui-même, là, mais il y a un peu... Parce que dans ses personnages, ils ont souvent... C'est quelque chose de têteux, si on veut.
Ouais,
là.
Ouais,
lui
même,
aussi, il est un peu comme ça. Là.
Même psycho-rigide, je dirais. Mais pour ses personnages, pas pour lui en tant que tel. Mais je le mentionne parce qu'en fait, je trouvais ça intéressant dans l'entrevue. Il disait qu'il aurait vraiment pu se diriger vers là. Il avait entamé une maîtrise en sciences politiques et puis il aurait probablement réussi. Et ça aurait pu être un de ses métiers. Et je trouvais ça intéressant quand il en parlait parce que ça change du fameux discours de « je n'aurais pu faire que ça ». Je suis acteur et j'étais dédié à ça. Lui, comme ça aurait vraiment pu être d'autres choses. Mais quand même, toute sa vie, il y a eu le théâtre, l'improvisation aussi, au secondaire, au cégep, à l'université, qui faisait partie de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a été... Il y avait beaucoup aussi d'amis dans ce milieu-là, entre autres Patrice Robitaille. Et donc, il a décidé de s'essayer au Conservatoire d'art dramatique. Ça l'a marché et il a obtenu son diplôme en 1999. Après ça, il a baigné beaucoup dans le milieu du théâtre. Il a écrit des pièces qui ont d'ailleurs remporté des prix, certaines et tout. Et il va aussi se faire connaître avec les séries dont on va parler avec Jean-François Rivard. Donc, on va pouvoir expliquer un peu plus le contexte de leur rencontre. Mais il va commencer aussi à jouer au cinéma. On l'a connu, entre autres, dans Québec-Montréal, le film de Ricardo Trogi, célèbre film où, justement, il interprète un personnage très proche de ce pourquoi on va le connaître ensuite, là, un peu ce dont tu parlais, le nerd un peu gêné, malhabile et tout.
personnage d'anti-héros souvent. Là,
oui.
On peut pas vraiment. C'est pas un modèle, là, mais il est pas mauvais. Ben, ça dépend. Certains personnages.
Dans ce cas, on va pas explorer un peu plus justement ces personnages. Enfin, donc, mais on va le connaître au cinéma. Il va jouer Paul dans l'adaptation de Paul à Québec, l'adaptation cinématographique. Mais bon, c'est surtout pour la télévision et les trois personnages qu'il a fait dans les séries là, écrites ou du moins réalisées par Jean-François Rivard. Jean-François Rivard, lui, on a peu d'informations. Ce qu'on sait de lui, j'ai fait beaucoup de recherches pour vrai. Là. C'est pas par laxisme que je ne sais pas ces informations-là. Mais j'ai aucune idée de quand il est né et où il est né. Je suis désolé. Si quelqu'un a l'information, la faire parvenir.
Souvent, de toute façon, c'est pas seulement l'information que le monde retient, l'émission. Hey, tu sais-tu ça? Jean-François Rivard, il est né en décembre, ça c'est juste. Fait que pour cette fois-ci, Pat, t'as une passe droit.
Mais François, comment on va faire pour aller plus loin dans cette émission-là sans savoir quel signe astrologique est Jean-François Rivard?
Ben, je pense que ça sert à rien de continuer. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de la Plaine des Sages. Non, continuons, là. Milly, je suis désolé, tu nous subis ce matin.
Ça va, ça va. J'avais justement prévu d'apporter mon horoscope là, pour faire une petite carte du ciel ce matin, mais là, j'ai compris, c'est correct, on fera pas ça.
Enfin, donc, on sait pas quand il est né, on sait pas où, mais on sait qu'il va commencer à réaliser des publicités et des courts-métrages après avoir étudié en cinéma. Ce qui est remarquable chez Jean-François Rivard, c'est qu'il adore la culture populaire. Ce qu'on va vraiment remarquer dans ses séries, puis je pense que c'est un gros apport qu'il fait justement au travail de Les Tourneaux. Donc, il y a une admiration pour des trucs qui sont justement, plus de la culture américaine, de masse. Et puis ça va se remarquer, entre autres, là, avec Les Invincibles. Déjà, là, l'influence de Rivard se sent à ce niveau-là.
Oui, mais il y a souvent des clins d'œil aussi dans les séries qui font référence à d'autres séries, d'autres films, que ce soit dans le type de plan qu'ils utilisent ou la façon que quelque chose est tourné, une référence dans ce que les personnages disent. C'est quand même comment on appelle ça, donc des
Easter eggs?
Oui, exactement.
Je sais pas comment on appelle ça en français, là. Tu sais, littéralement, c'est des œufs de Pâques.
Je pense pas qu'on
dit ça tant que ça.
Ouais, alors, on peut parler de méta-références, des clins d'œil. Mais oui, donc, c'est ça. Il adore aussi la musique. Je crois qu'il est musicien d'ailleurs. Encore une fois, la musique rock, la musique américaine. Et puis ça aussi, là, ça nous parle quand on a écouté les trois séries dont on jase aujourd'hui. Il a travaillé aussi, ça c'est une information que j'ai découverte, c'est quand même récent, il a travaillé sur un jeu vidéo, Watch Dogs 2, et il a aussi été réalisateur de 5 téléfilms anglophones pour une compagnie, je crois canadienne, qui est Incendo Productions. Donc c'est quelque chose qu'il a essayé récemment. Donc vraiment, c'est là où on voit aussi le lien avec la culture populaire. Donc lui, il était vraiment intéressé à essayer ça. Des téléfilms, c'est des films souvent qui justement sont faits plus rapidement, avec moins de budget, avec un scénario parfois moins développé, mais justement pour lui, c'était l'expérience de baigner dans cet univers-là, de réaliser ça. Enfin, donc c'est les informations qu'on connaît sur chacun des deux gars, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand eux, ils travaillent ensemble.
La magie.
Oui. Exactement, ça fait des étincelles. Non, mais ce qui est étonnant déjà, qu'il faut souligner, c'est que c'est quelque chose qui est arrivé un peu, mais pas par hasard, parce qu'il y a eu une approche. En fait, c'est Rivard qui avait gagné un prix pour un court-métrage qu'il avait réalisé et qui a été approché par des producteurs pour tourner une série sur des jeunes gens. C'était ça le but, c'était de représenter à la télévision là, des jeunes personnes dans la fin vingtaine, début trentaine. Et lui, il est allé voir Les Tourneaux. Et Les Tourneaux, en entrevue, a avoué qu'il l'a fait pour l'argent, en fait. Il était début de carrière, donc il avait l'opportunité d'aller travailler à la télévision. Et la télévision, on le sait, c'est là où on peut faire de l'argent. Même encore aujourd'hui, où certains voient la télévision comme un pan de déperdition, là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent qui se gagne là. Donc, c'est pour ça qu'il va accepter. Ils vont commencer à travailler sur le projet. Donc, ils vont scénariser ensemble ce qui va devenir Les Invincibles. Mais c'est long avant de trouver un diffuseur. Même s'il avait été approché par un producteur, la série était quand même un peu champ gauche pour l'époque. Et le premier épisode, c'est en 2005 qui va sortir, alors que quand Rivard est allé voir les tourneaux, là, on parle début 2000, là, donc environ 2001. Okay. J'ai déjà entendu que ça a pris 4 ans avant que la série voit le jour. Ça va être un énorme succès populaire et critique. C'est nommé pour des nombreux prix. Ça va en remporter aussi plusieurs. La série est réadaptée en France. Donc, c'est vraiment un gros, gros, gros succès. Et c'est l'histoire de quatre amis. Donc, on a PA, qui est joué par les tourneaux, Steve, Rémi, Carlos, qui vont faire un pacte et qui vont laisser leur copine le même jour. C'est un pacte qui va avoir des conséquences désastreuses parce que ces quatre gars-là, ce qui arrive, c'est que c'est pas des lumières. Ils ont vraiment une capacité à se mettre dans le trouble. Et d'ailleurs, sur 3 saisons, donc jusqu'en 2009, on va les voir s'enfoncer dans leurs problèmes et évoluer. Parfois moins que ce qu'ils devraient, mais quand même, bon, on les suit sur ces 3 saisons-là et c'est du bijou. Là. je sais que, Millie, on peut le dire franc-jeu, t'as moins apprécié Les Invincibles que, mettons, moi.
Effectivement, j'ai écouté la série aussi, mais j'ai moins trippé sur celle-là que sur les deux autres. Peut-être parce que je l'ai écoutée il n'y a pas si longtemps, donc elle a un peu mal vieilli. C'est quand même une série sur 4 dos de fin vingtaine qui ont des vies assez ordinaires. J'étais comme, moi, je sais pas si ça me rejoint tant que ça, finalement.
C'est sûr que si on fait la comparaison avec Série Noire, puis C'est comme ça que je t'aime, je pense qu'il y a un raffinement aussi qui s'est fait. Donc, tu sais, en rétrospective, on voit quand même un certain décalage. Mais moi, j'avais apprécié. J'avais bien aimé ça.
Mais ce que je trouve très intéressant, moi, c'est pour ça que j'aime souvent les premières œuvres, par exemple, de des réalisateurs américains. Récemment, j'avais écouté le premier de Wes Anderson. C'est le fun de voir l'esthétique qui est là, mais qu'on voit qu'il n'y a pas encore les moyens, tant budgétaires que aussi les moyens au sens de la capacité, peut-être plus aussi à comme mettre de l'avant ce qu'ils veulent faire exactement, les réalisateurs puis les scénaristes, parce qu'ils commencent leur travail. Donc, on voit quelque chose qui est la germe. Donc, effectivement, dans Les Invincibles, ça va moins loin dans l'humour, ça va moins loin aussi dans le scénario, peut-être. Mais moi, je trouvais ça intéressant de retrouver quand même l'origine.
C'est comme une certaine créativité primitive. Là. On voit que c'est là, la manière de concevoir les choses sont là, mais de comment les appliquer, comment les manifester à travers le médium de la série télévisuelle, c'est comme pas tout à fait maîtrisé encore.
Ouais, mais... En fait, on voit un peu comme le potentiel, finalement, de ces gens-là, sans qu'ils soient peut-être exploités, justement, au maximum.
Oui, et c'est sûr aussi, même eux vont dire, vont le refaire aujourd'hui, ils feraient des choses différemment. Faut dire que, comme tu as dit, ça l'a pas si bien vieilli par le fait que des séries avec des gars dans la fin trentaine qui vivent leur vie de dude, on en a vu, il y a eu des films aussi, il y a eu tout un mouvement au début des années 2000, je parlais de Québec-Montréal, Horloge biologique, donc les premiers films de Troji étaient là-dedans aussi. Aux États-Unis, on a vu ça apparaître beaucoup. Mais à l'époque, ce que les tourneaux expliquaient en entrevue, c'est que c'était pas commun à la télévision québécoise. La télévision québécoise, c'était surtout des téléromans, donc c'était des histoires plus dramatiques, peut-être de couple ou des trucs comme ça. Alors que de mettre de l'avant ce type de personnage-là, c'était quand même nouveau. Et aussi, faut dire que la série avait quelque chose dans l'esthétique de très, très original. Donc, ça oscillait entre le drame et la comédie, mais aussi, on avait la forme du faux documentaire qui suivait. Donc, on interviewait les gars. Il y avait aussi une influence du monde de la bande dessinée qui était notable, le comic book américain, parce que Carlos, qui est probablement le personnage le plus important, en fait, du moins lui, autour duquel on va le plus développer, il dessine des comic books et on a ces bandes dessinées-là qui suivent, donc qui sont une espèce de mise en abîme, là, dans le sens c'est l'histoire des quatre gars qui est représentée dans le monde des super-héros. Et ça, c'était quand même intéressant, c'était bien fait, c'était un bon flash. Mais c'est sûr que ça va pas aussi loin, effectivement, que Série Noire, qui, je crois, est l'une des séries qui a le plus marqué l'imaginaire d'une certaine strate de la population québécoise.
Ouais, c'est ça. C'était pas un succès populaire, là. Ben, comme on le définissait à l'époque que c'est sorti.
Effectivement. Donc, Série Noire, donc j'en parlais, l'histoire de Denis et Patrick, leur aventure scénaristique rocambolesque. Ça commence en janvier 2013. Et puis, effectivement, c'est qu'en fait, ça n'atteint pas les codes d'écoute attendus. Donc, on s'attendait à plus de codes d'écoute, à quelque chose qui allait ressembler aux Invincibles, mais c'est pas ça qu'il y a eu. Par contre, grâce à la plateforme de Radio-Canada, la série est redécouverte et reconduite pour une deuxième saison. Et puis là, c'est là qu'on a le phénomène culte autour de Série Noire. Il y a des répliques qui sont ultra connues. Et puis, pour vrai, moi, je vois l'ampleur en micro là, au Québec d'un phénomène à la Breaking Bad. Un peu là, les fans des Invincibles de Série Noire, c'est des gens qui l'ont profondément dans le cœur. Quand il en parle, tu vois les étoiles dans les yeux. Parce qu'il n'y a rien comme ça qui s'est fait au Québec. Il n'y a rien.
C'est vrai qu'il y a un mélange de genres vraiment intéressant, mais ce que je trouve encore plus fascinant avec Série Noire, c'est que la série en tant que telle parle d'une série télé qui est un peu... qui est très mauvaise, qui est un peu un flop, mais en même temps qui est super populaire, dans le sens que ils ont vraiment beaucoup de codes d'écoute, mais leur émission est pas bonne. Mmh. Fait que là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal du fait qu'ils ont écrit cette série-là, ça a été vraiment un flop à la télévision, puis une fois que ça a été en ligne, ça a comme rejoint un autre public, puis là, c'est devenu genre super populaire. Je sais pas, il y a comme un peu une espèce de mise... Ben, c'est pas une mise en abyme, ben... L'émission est une mise en abyme, mais le fait que dans la réalité, il y ait quelque chose de similaire que ce soit produit, je sais pas, je trouve que ça comme rajoute un peu du mystique autour de la série.
Ouais, il y a comme une ironie de plus, en plus d'avoir un méta-commentaire. Là.
Exactement.
Donc, voici une série qui va pogner à l'intérieur de la série, mais c'est mauvais. Puis ouais. Nous autres, là, ça donne que le véhicule qu'ils utilisent, c'est une série qui pogne moins, selon les critères de la TV, mais qui est excellente. Donc, il y a quelque chose de flyé.
Et il faut ajouter qu'à la deuxième saison, il y a en plus toute une intrigue qui se développe autour des codes d'écoute. Donc là, on est littéralement, je crois, dans le méta-commentaire. Faudra en parler à eux. C'est deux scénaristes hein, qui travaillent ensemble. Donc, on voit aussi le parallèle avec Letourneau et Rivard eux-mêmes, qui, par contre, vont dire que jamais de la vie, ils ont fait des trucs comme ça. Là. Ils font un peu de recherche, mais pas comme Patrick et Denis, qui,
j'espère,
qui se rendent dans le monde de la prostitution et du crime et tout. Bon. D'ailleurs, pour parler de monde du crime, eh bien là, c'est comme ça que je t'aime. Comme je le disais au début, cette fois-là, Rivard n'écrit pas, et il le dit lui-même, il est moins à l'aise avec l'écriture, avec le fait de s'asseoir devant son ordi. Lui, ce qu'il aime, c'est le travail en commun, donc le travail de tournage et tout. C'est comme ça que je t'aime, encore une fois, un ovni de la télévision québécoise. Ça se passe en 1974 en Sainte-Foy. On a deux couples dysfonctionnels, Gaétan et Huguette de Lille et Serge et Micheline Paquette, qui vont se retrouver là après, pendant que leurs enfants sont au camp de jour, au camp d'été, en fait, dans le monde du crime par une série d'aventures, parce que ils s'aiment pas beaucoup. Il y a toute une histoire de vouloir tuer son mari. C'est complètement pété. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, il faut y aller, c'est sur tout.tv. Et d'ailleurs, la série, elle a été très, très bien accueillie aussi. Elle va être reconduite. Donc, ils sont en train de tourner, ou je crois ils ont fini de tourner la deuxième saison. Oui, Émilie?
On veut juste avertir nos auditeurs qu'on va sûrement divulgâcher des informations sur les séries. Alors, si vous ne les avez pas écoutées et que ça vous intrigue, faites attention à vos oreilles.
Oui, merci, Émilie, surtout de ton utilisation du mot divulgâché.
J'adore les mots valises.
Donc, c'est ça, c'est le travail qu'on connaît de ces deux personnes. C'est un travail qui se fait en duo. Et moi, c'est un des éléments qui me fascine de voir deux artistes qui, ensemble, semblent atteindre un certain sommet. Et on peut les écouter parler eux-mêmes. En fait, c'est surtout Letourneau qui va parler de la façon dont ils se complètent.
Fait la force de notre duo, c'est qu'on se complète complètement. On tripe sur les mêmes affaires, on a le même sens de l'humour, on a comme des qualités différentes aussi. Moi, je suis plus dans les mots, je suis plus dans une facilité peut-être avec les dialogues. Puis toi, ben, tu as un talent visuel que j'ai pas. Là.
OK, OK, regarde.
Alors, c'était à l'émission d'Urbania.
Courrier recommandé.
Oui, courrier recommandé.
Donc, capsule en ligne, en fait.
Exactement, où ils mettent deux artistes ensemble qui choisissent des questions un peu au hasard laissées par d'autres personnes qui ont participé à l'émission, à la capsule. Et puis, la question était justement comment on se complète. Donc, une réponse que j'apprécie beaucoup, se compléter complètement. Je trouve qu'il y a quelque chose qui rappelle justement le travail de deux créateurs comme... par exemple, ou de plusieurs créateurs, on peut penser à des groupes de musique, Simon and Garfunkel, c'est si beau de les voir ensemble, mais encore plus le monde du cinéma. Donc, je nommais tout à l'heure les frères Coen, il y en aurait plein d'autres là, de duos comme ça.
Le monde de la BD, Goscinny et Uderzo.
Oui, effectivement. Donc, ce travail-là à deux, il y a quelque chose que je trouve très, très beau personnellement. Donc là, on dit, les tourneaux vont dire, bon, ils maîtrisent mieux les mots. Rivard, c'est plus du côté de l'image, de comment l'image peut rendre ces mots-là. Rivard aussi, on dit qu'il y a un sens du casting exceptionnel. C'est lui qui va faire des choix très originaux, parfois de l'anti-casting, donc des gens qu'on a vus beaucoup à la télévision, mais qu'on ne s'attendrait jamais de les voir dans ce type de rôle-là. Claudio, dans Série Noire, qui est joué par... un homme qu'on a connu dans Ramdam, comme je me souviens de son nom.
C'est le père dans Ramdam qui s'appelle Claude.
Oui, là, il est Claudio et c'est un criminel. Donc, il y a des choix comme ça, mais les choix sont toujours justes. Les acteurs sont incroyables. Je trouve que ça brise beaucoup l'image de l'artiste-créateur total qu'on peut avoir de « Ah, un artiste, c'est quelqu'un qui est capable tout seul de créer tout un monde, puis ça va être mieux si c'est cohérent, puis il est juste dans sa tête. » Et là, on a de quoi que... Ah, mais peut-être qu'à deux, on peut être meilleur. Je ne sais pas de votre côté si comment vous placez par rapport à ça. Est-ce que vous croyez qu'on crée mieux seul ou avec d'autres personnes?
C'est sûr, ça dépend un peu du médium. Parce qu'il y a des choses que quand on s'embarque dans un projet créateur ou créatif qui est plus de l'ordre de l'intimité, ben peut-être de le faire seul, ça peut être quelque chose qui nous ressemble plus, qu'on a l'impression qu'on veut vraiment que cette œuvre-là soit une espèce de prolongement logique de notre être. Mais moi, j'ai beaucoup de souvenirs de moments de création à deux ou à plusieurs, que ça, il y a une espèce de synergie qui se crée entre les personnes qui participent. Là, je pense à notre ancien collègue de radio, Émile, qui peut-être va écouter ça à un moment donné, là, qui ne sera pas en train d'être journaliste à Radio-Canada, mais qu'on avait fait de l'impro ensemble, on avait fait un duo, et c'est évidemment de l'impro, c'est improvisé. La création est spontanée, mais il y avait une synergie qui s'avait créée. On avait fait des impros qu'on avait adoré de faire à deux. C'est vraiment un travail magnifique. En musique aussi, des fois, c'est pas à deux, c'est à plusieurs, à trois, à quatre, mais ces moments-là de synergie sont le fun à vivre avec plusieurs. Là, on vit moins ça seul, j'ai l'impression.
Puis je pense aussi que dans le monde du cinéma ou là, de la télé, c'est toujours un travail d'équipe, en fait, parce que un plateau de tournage, c'est vraiment beaucoup de personnes qu'on mentionne rarement. Tu sais, que ce soit les gens qui sont preneurs de son, le caméraman, l'assistant réal, tu sais, toutes les gens qui travaillent à ce qu'un plateau fonctionne, puis qu'un film ou une série soit produite de ça. Il y a toute la post-production aussi, le montage, tout ça. C'est rare qu'on connaît, disons, les gens qui ont travaillé là-dessus, mais tu sais, regardez n'importe quel générique, il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent sur des œuvres cinématographiques. Puis je pense que le fait qu'eux soient un duo qu'on connaît un peu plus, ça nous permet peut-être de réaliser aussi l'ampleur de tous les gens qui s'impliquent dans un projet comme ça, finalement.
Effectivement, contrairement à un roman, il n'y a pas une personne à la fin qui dit « voici ce que j'ai créé » ou « la toile ». Et c'est ce que je trouve aussi beau, moi, au cinéma, à la télévision, de quand même repérer la signature, de quand même voir « oui, mais là, il y a quelque chose d'unique qu'on peut retrouver d'une émission à l'autre ». Ce qui participe à ça, c'est le fait que les acteurs aussi, tu parles de tous les gens qui travaillent dans une équipe de plateau de télévision, mais on a des comédiens, les Tourneaux Rivard utilisent ce truc-là qu'on repère beaucoup aussi dans le cinéma américain, là, les Tarantino, Wes Anderson, Scorsese, les Coen aussi, de ramener des acteurs d'un épisode à l'autre, de faire de l'inter référence. Donc, une série va avoir un élément qui nous rappelle quelque chose qu'on a vu dans l'autre série. Donc, tout ça, ça participe à créer l'impression de effectivement avoir une œuvre commune où on a des points de repère, mais sans empêcher non plus de se renouveler d'un épisode à l'autre. Et cette signature-là, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Je le disais dès mon texte d'introduction. C'est ça, je trouve que ça se repère dans le fait que on a deux personnes qui, comme ils le disent eux-mêmes, se complètent complètement. c'est une belle image. Aussi, ce qui peut aider à tout ça, c'est leur influence, c'est le fait qu'ils se permettent de faire quelque chose qui, justement, va chercher des influences un peu partout, entre autres du cinéma américain. Il va y avoir parfois des plans qui vont littéralement être des hommages de d'autres films, vont emprunter des codes de genre, comme on le disait un peu avec le comic book, mais aussi le thriller, même l'horreur parfois, le film noir. Ils ont tout un univers musical qui leur est propre. Les références au rock, Les Invincibles, ça se finit sur Still Loving You quand même, une grosse chanson de rock américain. Le kitsch québécois des années 70 dans C'est comme ça que je t'aime, qui d'ailleurs, le nom de l'émission, c'est une référence à une chanson, qui est la chanson de Mike Brand, donc C'est comme ça que je t'aime. Et parlant de musique qui font l'univers de Letourneau Rivard, on n'est pas allé avec C'est comme ça que je t'aime pour la chanson de la pause. On est allé avec une autre chanson qui apparaît dans la même série. C'est Alléluia de Donald Lautrec.
Bon, on écoute ça, une petite pause publicitaire, et ensuite, on va écouter Alléluia de Donald Lautrec. Restez avec nous aux ondes de chez 94.3.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
We'll be right back.
Alléluia! C'est ce que Donald Nautrec nous dit dans cette belle chanson qu'on retrouve dans l'émission « C'est comme ça que je t'aime ». Merci, Pat, de nous faire vivre un petit moment glorieux comme ça.
Oui, ben, Alléluia, une chanson de 69 de Donald Nautrec qu'on connaît pour « Manon vient danser le ska ».
Ben oui.
Entre autres.
Donc, il y a eu sa période, sa période plus justement pastorale.
Ben les messes à gogo là, qui sont vraiment un mouvement musical emblématique des années 60-70 au Québec. Là. C'était une espèce de, les gens voulaient comme attirer le monde dans les églises, fait que là ils se mettaient à faire des messes chantées avec des tunes sur ben reliées à la religion.
Correct ça. Ouais. Moi je serais venu. Ça aurait marché avec moi.
Mais le but c'était que ça soit comme plus le fun pour les jeunes puis que les gens continuent d'aller à la messe. Je pense que ça n'a pas vraiment été un succès finalement.
Et là, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas la scène en tête, mais qui ont vu C'est comme ça que je t'aime, ou ceux qui ne l'ont pas vu, on peut expliquer. Cette chanson-là joue dans la scène finale de l'épisode 6. C'est un plan séquence. Ça veut dire qu'il n'y a aucune coupure. Je ne sais pas si je l'avais remarqué à ma première écoute, mais à ma deuxième, parce que j'en suis à 4, là. On va être honnête ici. Et puis, justement, donc, aucune coupure dans la scène. C'est un effet cinématographique très souvent utilisé par des réalisateurs comme Scorsese, un grand réalisateur américain. Je trouve qu'il y a quelque chose de très P.T. Anderson, là, je name drop des gens que vous me regardez avec des... c'est mon petit côté trop...
Retournons à l'Éternel Rivard.
Ouais, en tout cas. Non, mais parce qu'on voit l'influence de ce cinéma-là américain, donc cinéma très signé, très artistique, mais aussi très populaire, très culte. Le cinéma de Tarantino, par exemple, pour nommer un nom plus connu. Donc, justement, un plan séquence, aucune coupure, un effet qui nous plonge dans le moment, parce que justement, on est en raccord, le temps dit le temps du film ou de l'émission, c'est le même que le temps réel. Le temps de la fiction est le même que le temps réel. Et puis, on réunit vraiment l'esthétique de Les Tourneaux Rivard là, avec cette musique-là, donc une reprise d'une vieille chanson des années 69. Et de l'année 69, plutôt. Et ce qui est magique, c'est que c'est un curé, justement, qui arrive à la maison des personnages, donc la maison des... pas des de l'île, mais
des paquettes.
Des paquettes, exactement. Et puis, ils sont en déperdition, là, dans la vision de la foi, là. Il y a là, tout le monde qui est en train de coucher avec tout le monde. On voit que ça consomme beaucoup, beaucoup d'alcool. Et là, on suit le curé, donc la caméra le suit de dos, se promener à travers tout ça et assister à la scène et être complètement révolté. C'est tellement bien fait.
Et une scène qui a été filmée à deux rues d'ici, on vient de l'apprendre pendant la pause. Merci au directeur de programmation Alex qui est venu nous mentionner ce petit fait, cette anecdote que cette fameuse scène a été tournée juste à côté. C'est intéressant.
Oui, effectivement, parce que ben, la série se déroule dans Sainte-Foy, donc... dans les bons galops de Sainte-Foy.
Ah, exactement. Donc, c'est ça. Je trouve que j'ai mis la chanson parce que justement, ça montre bien leur capacité à aller chercher quelque chose qu'on ne se serait pas attendu, mais que ça fonctionne. Je sais que mon père, qui a connu l'époque, ben, il n'a pas connu nécessairement 69, là, mais bon, qui a à peu près connu cette époque-là, lui, il était fasciné quand il a vu la série. Il a fait, sont allés chercher ça. Ils ont pensé à cette chanson-là et ça rend si bien le moment.
Mais il faut dire que ton père a un esprit très, très critique sur n'importe quelle œuvre artistique dont lui, il voit ces choses-là.
J'aimerais ça qu'on ne rit Mathieu, pas comme ça de mon père agriculteur très peu artistique. Mais quand même, il écoute beaucoup de télévision et comme bien des gens. Et c'est ce qui est fou parce que mes parents, par exemple, écoutent beaucoup de télévision très populaire, les trucs qui se font sur Netflix. Et Milly, tu te demandes vraiment où je m'en vais avec ça, mais la série, c'est comme ça que je t'aime, ça leur a parlé et c'est rare que des trucs un peu plus champ gauche les intéressent.
Même toi, là, tout ce que tu fais, ça les intéresse pas nécessairement.
Non, exactement. Donc c'est quand même fascinant.
Je connais bien tes parents, je les aime, c'est pour ça que je me permets de faire ça.
Mais enfin, donc, je trouve que c'est un bon exemple de la force de ce qu'ils font. Et je crois qu'une des raisons aussi qui fait c'est aussi bon, c'est qu'ils se concentrent, Les Tourneaux et Rivard, à raconter une bonne histoire et à bien la raconter. Et ça, Les Tourneaux en parle lui-même dans un podcast qui s'appelle « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Un balado diffusion, je crois que c'est à Radio-Canada. Donc, on peut l'écouter, sa notion de c'est quoi raconter une histoire. Donc, il parle au départ de comment lui, il aime ça se faire raconter, puis après ça, il en vient à sa propre démarche.
Je veux pas qu'on serve, je veux qu'on me raconte une histoire, puis après ça, comme quand on raconte une histoire à un enfant, après ça, l'enfant, il reste avec cette histoire-là, puis il est fasciné, puis il va tirer ses propres conclusions qui sont peut-être pas les miennes, mais il va peut-être voir dans cette histoire-là quelque chose que moi, j'ai pas vu. C'est ça qui est riche, puis qui est beau, je trouve. De vouloir tout caser, puis de dire, bien, c'est ça que j'ai voulu dire. Tu sais, des fois, on va au théâtre, puis on lit le mot de l'auteur, puis là, c'est comme, OK, bien...
Pas besoin de voir la pièce.
Bien, c'est ça. Fait que tu dis, mais pourquoi t'as écrit la pièce? Moi, je dis tout le temps, si vous voulez savoir ce que j'ai dit, bien, lisez la pièce ou regardez ma série, mais il n'y a pas d'autre... Je peux pas vous...
Bon, on entendait la voix de François Letourneau, donc, qui parlait de cette espèce de raconter l'histoire comme si on le faisait à des enfants, malgré qu'évidemment, les séries, les histoires qu'il raconte ne sont pas pour un public jeunesse.
Oui, bien, je sais pas, est-ce que vous voyez c'est quoi la différence, justement, entre raconter une histoire et dire quelque chose?
Oui, puis je pense que ce qui fait qu'une œuvre est bien racontée, c'est souvent justement le fait que le message n'est pas nécessairement évident, dans le sens où j'ai l'impression que souvent, quand les gens, leur intention principale, c'est de transmettre un message ou une idée ou un point de vue, souvent c'est comme surimprimé par-dessus la trame de fond qui est l'histoire. Puis ça paraît, tu sais, quand tu... Comme, mettons, un exemple vraiment intense, c'est justement, on parlait de Ramdam tantôt. Tu sais, Ramdam, c'est pas subtil dans genre « la drogue, c'est mal, les jeunes », tu sais. C'est pas... c'est vraiment comme très, très, très clair. Puis il y a évidemment des niveaux. Mais je trouve que, justement, dans les émissions de Les Tourneaux Rivard, c'est pas évident ce qu'ils veulent dire. Tu sais, il y a pas de... Tu dis pas genre « ah oui, c'est une émission qui parle de... » tel thème, où c'est plein de thèmes, c'est plein d'idées, c'est mélangé, puis justement, il n'y a pas un message final ou une morale, mettons. Mmh.
D'ailleurs, l'extrait qu'on écoutait, ça fait suite à un passage où Les Tourneaux parlaient du fait qu'il, par rapport à des prises de position, lui, il était toujours de centre. Il disait, c'est un peu plate de dire que je suis de centre, mais ce centre-là, c'est le centre du scénariste, parce que pour lui, une œuvre... quand elle est réussie, c'est quand les personnages vont pas être d'accord, qu'il va y avoir un débat, une confrontation, mais que les deux vont avoir raison. Donc, il dit, moi, je passe mes journées à travailler, à faire que des gens aient des positions super fermes de leur côté, mais que, ça, que chacun des deux, on peut leur accorder que oui, ça marche en fonction de qui ils sont, de comment ils ont évolué. Donc, il se sent obligé, après ça, d'observer un peu le monde sous ce prisme-là de, ah, ben tout le monde peut avoir raison, puis c'est ce que je cherche à mettre en scène dans mes séries.
C'est tous les personnages dans le contexte qu'ils sont. On dirait que, malgré qu'il y a un côté absurde, là, avec le côté comique, mais il y a une espèce de cohérence interne de ces personnages-là dans le contexte où ils sont. C'est comme, on apprend à les connaître suffisamment pour voir que, ah, ben... il agit d'une façon qui est totalement absurde, qui est over the top pour le commun des mortels, mais tu dis, à la lumière de ce que je connais de ces personnages-là, ça y a un certain sens, malgré qu'il y a comme une certaine extrapolation qui est faite. Là.
Oui, bien, ils sont pleins de contradictions, mais tous les humains, ils sont pleins de contradictions. Mmh. Puis souvent, dans les films ou dans les séries, on a tendance à dépeindre des personnages qui sont très noirs ou très blancs, tu sais, dans le sens que c'est des gentils, c'est des méchants, ou c'est des bonnes personnes, c'est des mauvaises personnes. Puis c'est tout le... Comment je dirais ça? Tout le talent, je pense, d'un bon scénariste, c'est de créer des personnages qui sont vrais, finalement, parce que personne dans la vie est soit genre... complètement, toujours parfait et gentil ou toujours méchant. T'sais, tout le monde a des tensions internes. Donc, je trouve que c'est vraiment une force, finalement, chez Les Tourneaux.
Oui, puis c'est différentes caractéristiques des êtres humains. Souvent, bon, ils existent, comme tu le dis, Milly, il y a des bons et des mauvais côtés. Puis souvent, on dirait que dans certaines circonstances, on veut juste voir le bon. Des fois, on veut juste voir le mauvais. On en parlait un peu tout à l'heure, mais on fait ça avec les gens. « Hey, cette personne-là, hey, c'est est tellement gentil. » L'autre fait « Ouais, elle est gentille, mais c'est pas fiable. » Donc, il y a tout le temps... Moi, je veux voir une partie, toi, tu veux voir l'autre. Et souvent, il n'y a pas ce moment dédié à l'intégration l'intégration de ces contenus-là, de la réconciliation de cette personne-là est gentille et elle n'est pas fiable. Ça se peut, ce n'est pas contradictoire. C'est juste que chacun a une perspective qui met en lumière un des aspects, mais souvent, on ne prend pas le temps de dire « Ah, mais ces deux aspects-là, ils peuvent être simultanément dans une même personne. »
Par contre, François, j'aime pas ça quand tu me décris comme ça à la radio. Là.
Oh non, t'es pas si smart que ça.
Oui, et ça tombe pas non plus. Faut pas le voir comme un relativiste total de des œuvres télévisuelles ou des œuvres théâtrales, par exemple, qui vont avoir cette position-là de ne pas chercher à dire quelque chose de précis. Cherche nécessairement à dire « Ah, tout se peut, puis tout le monde est correct. » Et non, il y a quand même... l'auteur qui s'exprime, qui va consciemment ou inconsciemment privilégier certains personnages et tout, c'est juste de ne pas essayer de réduire le truc à une thèse. Je sais que c'est quelque chose, par exemple, en littérature qui a été très populaire dans notre histoire québécoise, ici, des romans à thèse. Dans le fond, ce livre-là, ce qu'il dit, c'est ça. C'est qu'il faut aller, genre le défricheur, il faut aller défricher la terre. Et finalement, ben, c'est ça, comme il disait, c'est le pamphlet. Il a tout dit, l'œuvre ne sert plus à rien. Donc, c'est pas ça créer une œuvre selon les tourneaux. Et moi, j'embarque à fond dans cette vision-là de l'art. Et d'ailleurs, un autre truc qui fait que c'est intéressant, c'est que c'est pas des personnages qui sont figés. C'est des personnages qui évoluent. Il y a un arc narratif, on les voit se développer. Et je sais pas pour vous, je vais vous poser directement la question... Qu'est-ce que ça vous fait dans une série quand vous voyez un personnage qui change, là, qu'on remarque à travers une scène? La scène est si bien construite, on connaît assez le personnage pour voir, attends, là, il y a quelque chose de différent. C'est quoi l'effet?
Bien, dans les séries, justement, dont on parle à la radio aujourd'hui, les personnages sont souvent un peu détestables. personnellement, il y en a beaucoup qui...
Un peu.
Tu sais, crime, ils n'ont pas de bon sens, là, on va se le dire.
Oui, on va pouvoir approfondir cela dans quelques instants.
Mais donc, on a ce sentiment en tant que spectateur. Et je pense qu'on finit par s'attacher aussi au fait qu'ils soient... pas du monde, mais en même temps, on dirait qu'on est comme, mais ces humains-là, ils pourront pas vivre leur vie comme ça toute la vie, là, Grim. À un moment donné, il faut que tu évolues, il faut que tu deviennes plus mature, il faut que tu changes un peu. Fait que c'est sûr que c'est un peu satisfaisant de voir quelqu'un qui, finalement, Grim, il passe par-dessus certaines affaires qui, dans la vie, des fois, il faut passer par-dessus des affaires, mais en même temps, c'est cette partie-là qui fait qu'on s'attache à eux. T'sais, c'est le fait qu'ils soient le personnage qu'ils sont. Donc, on dirait que... Moi, je trouve que ça crée une espèce de distance de « Ah, OK, il a changé à la fin, mais je sais pas si ça me fait plaisir, en fait. »
On dirait que ça les rend plus vrais. Ou, tu sais, il y a une... Parce que dans la vie, quand il nous arrive des situations particulières, puis ces personnages-là, ils vivent des choses qu'on vivra jamais. Et je me souhaite de jamais vivre ces choses-là. Mais c'est... On dirait que tu pourrais pas rester inchangé de vivre des expériences comme ça. Ça deviendrait invraisemblable. Puis des fois, on voit ça à la TV, là, des modèles. Puis il y a d'autres choses. Là, ça a une valeur à d'autres niveaux. Mais des personnages vont vivre plein de situations. Mais après, l'épisode d'après, c'est la même personne que l'épisode d'avant. Il n'y a pas eu d'évolution. Puis on dit, il me semble que tu ne vivrais pas une telle expérience dans la vraie vie et t'en resterais inchangé.
Ben, en fait, c'est aussi inconsciemment que ça peut être. C'est une vision très pessimiste du monde qui passe à travers cette représentation artistique-là où les personnages n'évoluent pas, parce que c'est un peu de dire on ne change pas, là, on ne fait que remettre les costumes des autres.
Yes, pas les paroles, ça manquait de Céline à l'émission ce matin.
Ah, okay, c'est Céline.
Ouais, c'est une référence à Céline. Au-delà de la référence à Céline, c'est qu'une œuvre artistique où il n'y a pas d'évolution, une œuvre narrative artistique où il n'y a pas d'évolution, c'est un peu de dire, ah ben finalement, peu importe ce qui se passe dans la vie, mais la personne méchante, misogyne, ben, elle pourra pas un jour changer. Elle va toujours rester ça. Puis là, comme, ben non, c'est pas ça que je veux penser du monde. Même s'il y a peut-être du vrai là-dedans, c'est pas ça que je veux. Puis je trouve que, justement, la narration sert à ça, sert à nous donner un peu d'espoir parce qu'on s'identifie aux personnages, parce qu'on vit les trucs avec eux. Et ça donne l'espoir de justement... ça peut changer. Ce personnage exécrable peut devenir meilleur. Et là, justement, on a touché au sujet, il faut parler des personnages exécrables qui sont dans ces émissions-là. Pas au sens de spectateurs, ils sont géniaux là, quand on les regarde parce qu'ils sont complets, sont fascinants, mais comme humains, ils sont dégueulasses. Principalement, les personnages interprétés par les tourneaux. Donc, ils s'écrivent des rôles qui n'ont pas de bon sens et ça commence dès Les Invincibles avec PA. Et puis là, moi, je me gâte en mettant cet extrait de PA qui laisse sa blonde à un mariage.
J'aimerais ça que tu t'en ailles, s'il te plaît.
Je comprends pas, là.
C'est insupportable, là. T'es en train de gâcher ma soirée. Mais comprends-moi bien, là. T'es une fille formidable, là. Puis je me trouve vraiment privilégié de t'avoir rencontrée, mais ça marchera pas, je pense. En fait, je pense que tu me connais pas vraiment. T'sais. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement égocentrique dans la vie. Là. J'ai besoin de beaucoup d'attention pour être heureux. Puis d'avoir quelqu'un à mes côtés d'extraordinaire comme toi, là, tout le temps, là, ça me ramène à ma propre médiocrité. Puis c'est complètement déprimant. Là. J'en peux plus. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Là. Puis c'est pas vrai que tu vas gâcher ma soirée. Tu peux aller chercher ton manteau, là, mais j'aimerais ça que tu t'en ailles après.
Wow, quelle sincérité!
Ça, c'est une franchise désarmante.
J'ai pouffé dans le micro ouvert, je crois, là, mais quand il dit « Je suis un être extrêmement égocentrique, puis ça me ramène à ma propre médiocrité. » Parce qu'il faut comprendre un peu la situation. Là. PA a une blonde qui étudie en médecine, qui est belle, qui fait plein d'activités bénévoles. Elle est extraordinaire et son père a un kick dessus. Tout le monde est comme ah, et où quand il va partout. Puis lui, il est comme je peux pas sortir avec quelqu'un d'aussi bon. En même temps, c'est absurde comme moment.
Mais c'est sûr que quand on parle de cette franchise-là, on dirait qu'un autre, ça peut être un autre des aspects qui rend ces personnages-là attachants. C'est que moi, quand je voyais ça, j'étais comme c'est comme une vertu qui parle d'un vice parce que c'est d'une honnêteté que presque personne ne pourrait. Serait presque prêt à avouer, là, tu sais, d'être. Oh, c'est pas tout le monde qui est égocentrique comme ça, mais de révéler une partie de soi aussi exécrable, c'est ça. On parle d'un vice, je suis égocentrique, je peux pas me permettre d'être aussi poche, mais personne n'aurait. En tout cas, ça serait rare de vivre que quelqu'un dise autant quelque chose de franc et d'honnête, donc il y a une vertu en dessous de ça, là.
Ouais, puis en plus, c'est en fait, je pense que le personnage est vraiment authentique finalement, et il vit cette authenticité. Comme c'est vraiment de, c'est pas nécessairement positif, mais c'est de dire, hey, moi, je suis égocentrique, puis c'est de même. Genre, c'est ça fait partie de moi. C'est spécial quand même.
Mais là, il faut dire aussi, c'est présenté à travers le personnage qui nomme lui-même ce fait-là, alors que c'est pas tous les personnages de l'univers de Les Tourneaux Rivards qui ont cette honnêteté, cette authenticité-là. Mais en fait, le médium artistique fait que en tant que spectateur, on peut toujours le comprendre, même s'ils sont malhonnêtes, la façon dont les choses malhonnêtes avec eux-mêmes, qui n'oseraient pas s'avouer ça, je ne sais pas, des personnages comme Marc Arcan, là, qui sont décalés complètement. Là. Marc Arcan, c'est...
C'est dans un autre monde.
Ouais, ouais, donc,
le Marc Arcan world.
Ouais, exactement. Donc, Marc Arcan, c'est un personnage dans la série noire qui a vu dans la série un autre personnage qui était nommé Marc Arcan. Il s'est mis à s'identifier à ce personnage-là. Et là, il veut tout faire pour que la série soit à propos de lui. Mais c'est quelqu'un qui est super, il s'entraîne beaucoup, il y a des nunchaku qui est comme mais aussi c'est quelqu'un de fou littéralement, mais dans effrayant, tu veux pas rencontrer un Marc Arcan en vie, il te ferait peur, mais en même temps de le suivre comme ça, et Les Tourneaux Rivards disait aussi de le suivre à petite dose, d'avoir des personnages comme ça qui sont tellement exagérés mais en même temps humains, parce que ça représente des gens qui existent, peut-être pas comme ça exactement, mais ça peut quand même, on peut quand même voir des gens qui ont cet archétype-là, disons.
Mais il faut dire que dans la vie, il y a quand même beaucoup de gens très bizarres
exactement.
Dans notre humanité. Là.
Ou dans le studio.
Peut-être.
Bon, mais on les voit pas évoluer comme ça, justement, à petite dose, à travers une narration. On voit pas des moments où ils sont, c'est obligatoire qu'ils se révèlent d'une autre façon que la façon dont on les a vus comme ça pendant si longtemps. Donc, on voit pas justement, je sais pas, la personne dans la rue qui nous fait peur, ben on la voit pas un moment dans son intimité qui, tout d'un coup, est plus cet être étrange qu'on avait seulement croisé. C'est ce que, justement, une série peut nous permettre. D'autant plus la série, je pense que le film, parce que, justement, la série, ben, c'est sériel. Fait que c'est d'un épisode à l'autre. Il y a toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle facette qu'on peut développer et ça peut se faire en subtilité. Il n'y a pas le format de 1h30, 2h qui nous oblige à rentrer ça, condenser ça en peu de temps.
Oui, et la structure de l'histoire aide à former une espèce de progression logique qui donne finalement un cheminement. Tu sais, quand on parle du personnage je me souviens plus, c'est P.A., c'est ça, qui parle que je suis égocentrique, on dirait qu'il n'aurait pas pu révéler ça au premier épisode, parce que là, ça aurait fait... On le connaît pas assez pour que ça fasse du sens, mais aussi on dirait que de par tous les événements de vie qu'il a vécu, là, le fait qu'il puisse avouer ça à cette personne-là, on dirait que ça fait du sens en fonction de l'histoire qu'il a vécue. Là, il a cheminé suffisamment, on ose croire ça, pour se permettre une telle franchise. Donc, c'est pas juste de les voir aussi, mais aussi de voir l'évolution et de ce changement-là. C'est pour ça que dans la structure narrative, on disait que c'est important, les gens qui changent, les personnages qui changent, mais c'est aussi pour ça, l'histoire aide au changement. Puis là, on peut constater une espèce de... C'est pas une morale très simple, mais au moins on voit, ah, au moins ce qu'ils ont vécu, ça les a amenés à ce point-là. Pardon.
Oui, et aussi il faut dire que c'est très drôle.
Oui.
et ça fait partie de la certaine absurdité dont on parle un peu depuis le début. J'avais le goût de mettre un autre extrait pour se faire plaisir, très court. Encore une fois, une réplique qui est dans un peu le même ordre d'idée.
Ce qui serait bien aussi, j'ai beaucoup pensé à ça, serait d'avoir une philosophie libre au niveau de l'amour. Comme en Californie, ça diminuerait les tensions au sein du groupe.
Voyons donc, toi, l'amour libre. On n'est pas pour ça, nous autres, là. Non, nous autres, on trompe en cachette, mais on est pour la fidélité en principe.
Encore une fois, une énorme franchise.
Oui, trompe en cachette, mais la fidélité en principe. Mais en même temps, c'est encore quelque chose qu'on n'entendrait pas nécessairement quelqu'un dire dans la vie. Mais donc, il y a une certaine absurdité, un décalage avec le réel, mais qui, en même temps, sonne vrai quand même. D'ailleurs, c'est ce qui... c'est de cette absurdité-là, des Invincibles, moi, je trouve ça très bien fait, cette espèce de... Les personnages sont bêtes, ils sont parfois imbéciles, mais ils vont glisser d'une situation dramatique qui fait penser à plusieurs situations qu'on voit dans la télévision, dans le cinéma québécois, même dans la littérature. Donc, drame, mais l'univers va juste être un petit peu décalé, juste un peu absurde. Puis ce contraste-là, il nous permet de percevoir quelque chose de différent et il nous fait rire, mais il nous fait rire, mais aussi il nous dit quelque chose de nouveau. Il éclaire d'une autre façon le réel que de rester accroché à ce réel très réaliste.
Bon, ben, mon Dieu, Pat, c'était vraiment fascinant pour le vrai. Merci de nous parler de l'Eterno Rivard, donc un duo qui nous a fait réfléchir énormément. C'était super agréable comme moment avec vous. J'espère que nos auditeurs l'ont autant apprécié et qu'ils vont autant apprécier l'émission de la semaine prochaine, parce qu'on parle de qui exactement?
La semaine prochaine, on parle de Jane Austen, une autrice bien connue et dont je suis très fan.
Oui, et on va le faire avec une chroniqueuse spéciale, une amie, Flavie Bergeron, qui vient nous parler de Jane Austen à la radio. Ça va être génial.
Donc, soyez des nôtres. On vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine. En attendant, restez à l'écoute de Chiz 94.3. Merci à tout le monde. Vous êtes cool.
Chiz 94.3 FM à Québec.
Bord de la Réveillard Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence? Écoute locale avec Cheese 94.3.
Découvrez Run Up River, le tout nouvel album de Renaud McCarthy, incluant l'extrait For a Moment. Ne manquez pas son spectacle le 26 novembre au Grand Théâtre de Québec. L'album est disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès maintenant et les billets sont en vente au grandtheatre.qc.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Cheese 94.3 ou au www.cheese.ca. À bientôt!
Mais quand... Je me sens mal, je suis fatiguée. Toujours la même routine. Les jours.